Scrapping plus crapaud égale scrapaud, le podcast du gros hacking pour débuter. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Lorraine qui va me parler de SEO. J'ai trois questions à lui poser car c'est un domaine un peu obscur, on entend beaucoup de choses et j'aimerais en savoir plus. Et ce qui m'intéresse d'abord, c'est de connaître un petit peu plus Lorraine, si tu peux te présenter.
Bonjour Jérôme. Alors, donc, moi, c'est Lorraine. Je suis responsable SEO en l'enceinte, en tout cas, de l'agence Enfama. Je travaille depuis maintenant un peu plus de 8 mois pour l'entreprise. Et donc, je m'occupe régulièrement des sites web de nos clients pour les rendre visibles grâce au SEO.
Ma première question... Si tu devais expliquer le SEO à un enfant de 10 ans, tu dirais quoi ?
Alors, je lui dirais déjà félicitations, tu as monté ton premier site web, c'est chouette. Maintenant, le prochain défi, ce sera celui de le rendre visible. En fait, je vois le SEO comme un gâteau qui doit impressionner un jury. Grosso modo, si on vulgarise un petit peu. Donc, on s'imagine dans un concours de pâtisserie, l'objectif, c'est d'avoir le meilleur gâteau aux yeux du jury. Et donc, la recette, elle sera composée de 3 parties différentes, en équivalent aux 3 piliers du SEO. Donc, les 3 choses vraiment essentielles, élémentaires pour le SEO. Le premier, ce sera le pilier de contenu. Donc, c'est un peu comme les ingrédients. Il faut qu'il soit qualitatif, il faut qu'il soit unique. Il faut que l'ensemble réponde à l'intention de recherche de l'internaute. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un va chercher, acheter un gâteau de type mousse au chocolat, par exemple, il va mettre « acheter une mousse au chocolat ». Et donc, à partir de là, il faut que, sur mon site web, je puisse correspondre en fait, à ce que souhaite l'internaute. Donc, je dois proposer des mousses au chocolat et je ne dois pas ajouter du contenu qui soit un peu bateau, du contenu qui est long, etc. Il faut que ce soit vraiment qualitatif.
Donc, en gros, c'est comme quand je vais à la boulangerie, si je demande un pain au chocolat qu'on me donne un croissant, ça ne va pas le faire.
Exactement.
Okay.
Donc ça, c'est la première partie, donc le pilier de contenu. La deuxième partie, ce sera la partie cuisson-dressage, on va dire. Donc là, c'est la partie technique. Donc là, il faut que ce soit joli, ok, mais il faut surtout que ce soit fonctionnel. Il faut que le site soit rapide. Il faut qu'il soit responsive. Donc ça veut dire adapté pour toutes les plateformes, y compris surtout le téléphone, le mobile. Donc il reste hyper important. Et il faut qu'il soit aussi bien structuré avec l'ensemble d'un bon fonctionnement. Et il faut aussi qu'il y ait des éléments clairs et lisibles. Il faut vraiment avoir une très bonne expérience quand on arrive sur le site web. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le dernier élément, c'est le pilier donc, de notoriété, la popularité, donc un peu comme l'avis du jury.
Okay.
Le jury va juger. On a un chef renommé qui va dire « Ok, ce gâteau-là, il est vraiment chouette. » On se dit « Ok, j'ai du bonus, je vais avoir la notoriété parce qu'un chef reconnu m'a recommandé. » Là, ça va être la même chose, mais pour les sites web. Par exemple, si j'ai un site dédié à la cuisine, si je me fais recommander par le site officiel de Top Chef, ça fait monter ma notoriété parce que je suis recommandé par quelqu'un qui a déjà une très grande notoriété.
D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec les backlinks ?
Exactement. Et c'est ce qu'on va chercher à avoir au maximum. Donc, backlink, ce sont les liens entrants. C'est-à-dire que si le site de Top Chef fait un lien vers mon site à travers un contenu de type article ou page, dans ce cas-là, c'est un lien entrant vers mon propre site. Et c'est ça qui va contribuer à ma notoriété. Et plus il y en a en termes de quantité et surtout de qualité, mieux c'est pour le site web.
C'est déjà plus clair. J'aurais pas imaginé ça comme ça, recette de gâteau, c'est super clair. Alors, passons à la deuxième question.
Oui.
Quelles sont les idées fausses que tu entends le plus souvent sur le SEO ?
Alors, celle que j'entends le plus souvent, c'est « le SEO, c'est gratuit ». Alors, c'est faux, parce que ça requiert beaucoup de temps. Il faut rédiger le contenu, il faut travailler la partie technique, etc. Parce qu'un site est évolutif, certaines pages vont être lourdes au fur et à mesure qu'on va rajouter du contenu, donc il va falloir l'alléger dans les codes, dans le poids des images, etc. C'est un ensemble de choses qui va alourdir le site, donc il faut l'entretenir. Et donc, c'est du temps. C'est aussi des outils, parce qu'il faut aussi pouvoir analyser chacun de ces éléments. Est-ce que mon contenu est toujours assez bon grâce aux outils qui me montrent le positionnement de mon site web sur certains mots-clés ? Est-ce que Mon site est toujours bien rapide. Est-ce qu'il est bien adapté au mobile, etc. Donc, pareil, ce sont des outils, un ensemble d'outils qu'il faut aussi payer. Et aussi, on a l'aspect production où soit on décide, par exemple, de rédiger nous-mêmes les articles, donc c'est encore une fois du temps, ou soit on décide de le déléguer, et dans ce cas-là, il va falloir payer un rédacteur.
Et là, ChatGPT suffit pas ? Je fais l'avocat du diable.
Alors, ChatGPT peut être quand même un très bon assistant. Je trouve qu'on est vachement... on blâme beaucoup de ChatGPT, mais il nous aide énormément. Quand on n'a pas d'idée, quand on a du mal peut-être à trouver une bonne structure, etc., il peut être un très bon assistant. En revanche, c'est toujours mieux d'avoir l'expérience d'un rédacteur qui, lui, va aller fouiller dans les meilleurs résultats, prendre les meilleures pratiques, trouver l'angle différenciant qui va faire que nous, on va potentiellement passer au-dessus de notre concurrent. Donc, ça reste quand même un travail professionnel. Il faut juste savoir lier les deux, parce que de là, on en tire le meilleur, en fait.
Super. Puis ça nous challenge un petit peu, parce que des fois, on...
Oui,
c'est...
clairement.
Quand on l'utilise régulièrement, c'est ce que je me suis aperçu. La troisième question, maintenant... Si tu devais donner trois conseils simples à quelqu'un qui débute, ça serait lesquels ?
Alors, le premier conseil que je donnerais, alors pour moi, c'est l'un des plus importants, c'est un peu sur le pilier contenu, donc les ingrédients qu'on a vus tout à l'heure, c'est de vraiment bien cibler l'intention de recherche de l'internaute. C'est-à-dire que si je cherche tel ou tel produit ou bien tel service, qu'est-ce que moi je taperais pour trouver ce service ? Donc, à partir du moment où on se pose cette question, on trouve le mot-clé qui, pour nous, est le plus pertinent, le plus logique.
C'est presque du copywriting dans l'idée, ou est-ce que tu vas travailler par rapport à ça ou pas du
tout ? Dans la recherche du mot-clé, c'est pas vraiment du copywriting, c'est vraiment, pour moi, c'est un aspect vraiment très pertinent, très logique. En fait, il faut partir sur quelque chose de très simple, parce que la recherche, c'est pas compliqué en soi. C'est juste le fait de trouver ce mot-clé-là, et le copywriting va venir dans un second temps, là où on va commencer à vraiment construire le texte et rédiger tout ça, en fait. C'est là où on va potentiellement avoir devoir mettre en place le meilleur contenu possible, en fait.
D'accord, on fait pas l'inverse, parce que j'ai vu beaucoup de personnes faire l'inverse.
Ah oui, non, effectivement, là, c'est vraiment à partir de ce mot-clé-là, on se dit, OK, sur ma page mousse au chocolat, si je parle beaucoup trop, par exemple, de crème brûlée, ça n'a pas de sens. Du coup, Google va se dire, bizarre, elle me parle beaucoup plus de crème brûlée que de mousse au chocolat. C'est pas cohérent. Hop, il descend.
Ah, c'est beaucoup plus clair. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ça ?
Oui, du coup, le deuxième élément hyper important, ce serait créer du contenu qui répond vraiment à la question de l'internaute. Donc, après avoir fait ce travail où je trouve ce mot-clé, il faut que je puisse me dire, OK, qu'est-ce que veulent mes clients par rapport à mon mot-clé ? Est-ce qu'ils recherchent une information ? Est-ce qu'ils ont plutôt une intention d'achat ? Ou est-ce qu'ils veulent résoudre un problème ? Et donc, à partir de là, on va pouvoir construire le contenu. Si mon information, c'est recette de mousse au chocolat, ben là, ce qu'on cherche, c'est pas à acheter une mousse, c'est de trouver la recette qui va. Donc, si dans mon contenu, je vais avoir du contenu informatif, tel que, OK, étape 1, prenez le chocolat, faites-le fondre au bain-marie. Étape 2, etc. Ben là, du coup, ça répond bien à l'intention de recherche de mon internaute et le contenu correspond à cette intention de recherche. Tandis que si j'ouvre une page, je vise le mot-clé recette chocolat et que finalement, je ne fais que vendre, ça ne correspond pas à ce que veut l'internaute. Donc, il va vite quitter la page et Google va se dire « il y a beaucoup de personnes qui quittent la page rapidement, ça ne doit pas être très pertinent. »
D'accord.
Et donc ça, c'est hyper important. Et pour moi, le dernier et troisième point, c'est de bien soigner les bases techniques. Donc, si le site est lent, s'il n'est pas adapté au mobile, si c'est du copier-coller d'autres sites, rapidement, Google va s'en apercevoir, autant par lui-même que par le comportement des internautes qui vont vite quitter le site, parce que, entre nous, un site qui met 10 secondes à charger, on n'y reste pas très longtemps.
Et exactement, on fuit.
Exactement.
Est-ce que tu as tout dit ? Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter par rapport à ce métier qui est fascinant et auquel on n'imagine pas toutes ces réponses ?
C'est un métier qui reste quand même très passionnant parce qu'on le suit presque, en tout cas pour ma part, je le suis presque autant que la bourse parce que ça change tout le temps en fait, notamment depuis l'arrivée de l'IA qui a vraiment rebattu les cartes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de recherches avec l'IA et donc il faut vraiment se démarquer, il faut toujours mieux travailler justement ces trois piliers-là pour apparaître au plus haut possible, donc idéalement dans le top 3 de Google. Côté ChatGPT, etc., essayer en tout cas d'être la meilleure référence, le plus autoritaire dans son propre domaine d'expertise, en fait. Et en fait, ça change tous les jours et c'est hyper intéressant pour ça.
Ça reste un socle, finalement, le SEO. C'est, on construit, là, on va faire par rapport à une maison, on construit les fondations. Et parce qu'on imagine que ChatGPT, Mistral AI, va aller chercher aussi du contenu sur des bons sites qui Exactement. Ont fait un effort pour le SEO.
Exactement. Ce qu'il estime lui-même, en tout cas, être le plus légitime, le plus cohérent et pertinent par rapport à ce que recherche l'internaute.
D'où l'idée aussi de travailler son français, sa façon de s'exprimer, pas comme une IA pourrait le faire aussi.
Peut-être. Exactement, parce que malgré tout, sauf pour des prompts pardon, qui sont très très bien travaillés, on sent quand même une différence, on sent encore l'écriture humaine comparée à une écriture vraiment IA copier-coller qui n'a pas été retravaillée. Ça se voit, ça se sent, autant du côté des internautes que du côté de Google. Et donc, effectivement, ça, ce sont des choses qui vont être pénalisées. Et donc, au fur et à mesure du temps, je pense que les contenus de mauvaise qualité vont vraiment, vraiment descendre pour le coup. Donc là, c'est toujours la qualité qui va primer surtout.
Eh bien, ça, c'est une super conclusion. Merci beaucoup, Lorraine.
Merci à toi.
Et puis, je te dis à bientôt.
À bientôt.
Merci, au revoir. Scrapping plus crapaud égale scrapaud, le podcast du gros hacking pour débuter.